Bienvenue tout le monde dans l'édito. Écoutez, la voiture électrique est encore au centre de toutes les préoccupations et de toutes les lèvres. C'est un truc qui a marqué le dernier budget au Québec. C'est à peu près la seule coupure de dépenses, si on peut appeler ça coupure, qu'ils ont faite. Donc, on continue de garrocher de l'argent un peu partout jusqu'à ce que mort s'en suive, comme dit le dicton. Mais le gouvernement du Québec va tirer la plug, comme l'a déjà fait l'Ontario, je pense. Je pense que si vous êtes ontarien, d'ailleurs, c'est ce qui explique aussi ce qu'on appelait le flip de voitures électriques. C'est-à-dire que des gens achètent des chars électriques, bénéficient de la subvention du Québec et du fédéral, puis vont la revendre en Ontario. Parce qu'en Ontario, les gens ont juste la subvention fédérale qui est encore en vigueur et n'ont plus celle-là de l'Ontario qui était abolie par Ford, je pense. Il y a genre 3-4 ans de ça facilement. Mm-hmm. Donc, le gouvernement du Québec a annoncé qu'ils vont faire à la québécoise. Là, il n'y a jamais ici, on n'est jamais capable de tirer sa plug. On tire un peu, puis il y a encore un petit peu d'électricité. On laisse ça là. Fait que là, on va commencer à partir de l'année prochaine à réduire, je pense, du quart ou de la moitié les montants qui sont octroyés pour les subventions jusqu'à leur disparition complète, je pense, en 2027.
Ouais, au 1er janvier 2027,
Fait que, bref, toute une histoire. Et là, là, il y avait des journalistes qui avaient le goût de s'acheter des chars électriques au budget. De ce qu'on me dit, au huit lots, c'était rempli de journalistes en mental breakdown parce que là, tout d'un coup, ils allaient peut-être perdre la subvention pour financer leur Tesla ou leur Subaru électrique. Donc là, est signé dans La Presse sous la plume de Francis Vaille, chroniqueur de La Presse quand même assez bien connu de tous. Il a écrit un texte qui s'intitule « Une solution pour remplacer la subvention ». Donc là, on avait vraiment compris que c'était un problème. Là. Il n'y a pas assez de subventions, comme dirait l'autre. Donc, il faut trouver une solution.
Ben là, c'est ça, en fait. Si on met ça dans le Jalozo Tree, il n'y a plus de subventions. Est-ce que c'est un problème? Moi, je suis d'avis que non. Là, fait que ça devrait pas mal s'arrêter là. Mais ça a l'air que non. Ça, il faut continuer.
Oui, c'est ça. Donc, c'est ce titre ici, une subvention pour une solution pour remplacer la subvention. Et là, il nous dit dans ce texte, la fin progressive de la subvention de 7 000 pour les véhicules électriques était attendue. Sa facture annuelle est costaude et le gouvernement considère avoir donné l'allant. Moi, j'aurais pensé que c'était l'élan, mais nécessaire à ce marché pour lui permettre de vivre par lui-même. Si on se réfère à ce qu'on a jasé dans les...
On a jasé il n'y a pas longtemps, en fait.
Si on se réfère à ce qu'on a jasé dans les dernières semaines, je ne sais pas de quel élan il parle, mais pour vrai, le système... Il y a plusieurs constructeurs qui ont l'air à trouver qui n'ont pas trop le vent dans le dos, mais plutôt dans la face.
Bien, le seul point, c'est que je me dis, en quelque part, ceux qui voulaient un véhicule électrique, maintenant, c'est fait. Puis, il y en a encore qui sont peut-être sur la clôture, qui hésitent. Mais, tu sais, j'en parlais avec un de nos auditeurs qui ça fait plusieurs véhicules électriques qu'il possède. Puis, tu as encore un gros 70% de la population qui ne veut rien savoir. Tu sais, pour ce bout-là, il faut falloir que ça vienne d'eux-mêmes avec le temps, les meilleurs produits, peu importe. Tu sais, que le temps fasse son œuvre, qu'ils pensent, whatever. Ils feront le move quand ils seront prêts, tu sais. Mais pour le 30%, c'est là-dessus que je trouvais que le gouvernement, effectivement, on peut dire qu'effectivement, tu n'as plus vraiment besoin. Puis de toute façon, on avait parlé aussi récemment, la dernière semaine, ça fait des disruptions de marché, cette histoire-là. Fait que, puis ça venait justement de notre auditeur qui possède des véhicules, qui a possédé plusieurs véhicules électriques. Qui dit, tu sais, avec la baisse des subventions, avec la perte des subventions sur les véhicules électriques, les prix vont s'ajuster. On avait parlé, tu sais, les subventions qui commencent toutes, c'est-à-dire le prix des véhicules électriques, le prix de base commence toujours le 5$ en dessous de la limite pour plus être admissible en dessous de la pleine subvention. Fait que tu dis, ces cochonneries-là, ça va disparaître. Puis le marché va s'ajuster. Ben non, ça a l'air, tu sais. Francis Vaille, c'est pas mal hit and miss, hein, ses textes. T'sais. Des fois, c'est bon, des fois, c'est pas bon. Mais là, aujourd'hui, on est comme dans le pas bon.
On y vient au détail dans quelques instants. Mais c'est juste que, tu sais, je veux pas leur donner des idées parce que je sais qu'il y a des espions qui nous écoutent une fois de temps en temps. Là. Mais pour vrai, c'est quoi la différence entre ce que le gouvernement fait avec les véhicules électriques et un gouvernement, par exemple, nationaliste comme celui de la CAQ? Je les imagine très bien. Imagine la conférence de presse avec Eddie Van Roberge pour nous dire que pour soutenir la culture québécoise, là, le gouvernement va financer l'achat de tables tournantes Comme ça, vous allez avoir un, si vous achetez un tourne-disque, vous allez avoir un crédit d'impôt, vous allez avoir une subvention de 120$. Puis avec ça, ça va vous permettre d'acheter des disques de musique québécoise pour pouvoir faire vivre notre culture sur tourne-disque 33 tours. Donc, pour moi, on est un peu dans la même affaire. C'est-à-dire que là, au lieu d'être la culture, c'est l'environnement. Mais c'est le même truc. C'est que les consommateurs ne veulent pas de ça pour toutes sortes de raisons qui sont personnelles. Pour l'autonomie, pour le prix, pour toutes sortes de raisons. Aussi pour les listes d'attente. Puis en passant, ça, c'est un phénomène qui va s'empirer. Hein. Parce que moi, je connais plein de gens qui désiraient justement sur un acheter un véhicule électrique. Et il y a même certains cas, je nommerai pas la compagnie, je nommerai pas le constructeur, mais ils ont été rappelés en leur disant « on va vous fournir un modèle traditionnel parce qu'il y a trop de temps, là, on ne peut pas vous garantir que vous allez avoir un véhicule ». Mais qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont créer avec cette annonce-là? Ils vont créer un « fear of missing out
».
Donc là, les gens vont se dire « ouais, mais si je veux avoir le chèque, si j'y pensais dans peut-être 3 ans, mais il faudrait que j'y aille maintenant. » Donc là, tu rajoutes la quantité de gens qui en veulent avant que finalement le chèque disparaisse. Donc, tu rajoutes une pression sur les listes d'attente. Donc, tant pire, en fait, un peu. Tu sais, tu parlais du Jalozo Tree, mais à mon avis, c'est... Là, il y a un problème qu'ils ont partiellement créé et ils vont l'empirer avec ce type d'annonce-là. Parce qu'en faisant un phasing out de la subvention, c'est ça qui va arriver. S'il avait tiré sa plaque du jour au lendemain en disant « OK, ceux qui ont passé une commande avant telle date, vous allez l'avoir. Les autres, tous ceux qui, à partir d'aujourd'hui, veulent vous commander ou acheter un véhicule électrique, c'est fini. » Ben là, tu ne crées pas ce phénomène-là. Mais là, tu vas le créer parce que là, c'est plein de gens qui sont comme en période de renouvellement, de location slash achat, vont vouloir avoir un véhicule électrique puis sont comme « Ouais, mais là, t'as peu, là. Si moi, je le voulais peut-être dans 2 ans, 3 ans, mais vu que le chèque va disparaître, je suis aussi bien de le vouloir tout de suite.
Tu vois, c'est actuellement pour le nouvel Equinox électrique là, qui s'en vient. J'étais chez un dealer, un concessionnaire GM, il y a une couple de semaines. C'était 3 ans d'attente. Là, c'est sûr que rajoute ça. Je parlais avec une des bosses, là, c'est quelqu'un qui est au courant du dossier, là. Je veux dire, là, rajoute cette annonce-là. C'est sûr que tu vas avoir l'effet, là, tu sais, le fear of missing out, tout le monde va se pitcher dans la porte, tel au Boxing Day. Puis après ça, ça va se calmer, mais il y a autre chose aussi, si je peux te relancer sur, c'est notre nationaliste québécois, je suis convaincu que, tu sais, s'il y avait une voiture électrique québécoise, comme autrefois, bon, c'était pas un véhicule électrique, mais tu sais, la Manic GT, qui était une voiture qui était faite au Québec à la fin des années 60, début 70, s'il y avait une voiture électrique québécoise, quelconque un constructeur automobile électrique québécois, c'est sûr qu'il y aurait gardé une forme de subvention que pour où il y aurait une patente.
Oui, absolument. Et là, Francis Veil nous dit dans son texte, dans ce contexte, la suggestion d'équitaire, donc évidemment, on fait parler un organisme environnemental militant, grosse surprise ici.
Oui.
Je vous donne les détails pour 25 modèles de véhicules dans quelques paragraphes, prix et gaz à effet de serre inclus.
Attends, tu sautes un bout, c'est que tu as oublié de mentionner qu'équitaire, cette idée-là, ça vient au départ de la France.
c'est pas, dans le début, comme ça, c'est pas mentionné.
Ah, c'est peut-être plus loin que ça vient dans le texte. Ah, okay. C'est plus loin. Il parle du programme français. Le Francis Bar, il dit OK, bon, je vais peut-être aller trop vite.
J'y arrive. Ce système de redevance remise, terme équivalent au bonus-malus européen, fonctionnerait selon des paramètres inspirés du système français, selon ce que propose
l'équitaire. Voilà.
Toute mauvaise idée. Ça, c'est le comment je pourrais dire ça? J'appelle ça le théorème de Macron. C'est que toute mauvaise idée... Le pourcentage de chances qu'une mauvaise idée origine de la France est toujours équivalent... je voudrais faire une formule, là. Mais il y a un pourcentage toujours très élevé. Donc, s'il y a une idée de con quelque part, c'est probablement qu'elle a été essayée en France. Empêcher des gens de louer des immeubles locatifs en pleine pénurie de logements pour des raisons énergétiques. Ça a été fait en France. Il y a des gens qui veulent faire ça ici.
Taxer l'asphalte.
La pluie, ce genre de niaiserie-là, ça a été fait en France. Les mesures, le petit col roulé, puis baisser le courant, ça a été fait en France. Toutes les idées de cons qu'on entend, ça vient toujours de la France. Je ne dis pas que ça vient des Français.
Non,
exact. Ça vient de leur bon gouvernement. Qu'on se comprenne bien, là, pour... pas envie de recevoir une volée de bois vert de la part de nos auditeurs européens. Et là, on dit, en gros, les véhicules neufs se verraient imposer une redevance en fonction de leur émission de GES et leur poids. Et inversement, les autos peu émettrices recevaient une remise qui pourrait s'apparenter en quelque sorte à la subvention de 7 000 Donc, autrement dit, moi, je m'en vais m'acheter un Cherokee, ben je vais payer plus cher et ça, ça va servir à financer ton char que tu vas acheter qui, lui, va être électrique. Fait que finalement, on trouve le moyen de créer une subvention de manière détournée parce que là, finalement, le gouvernement, c'est quoi une subvention? Le gouvernement prend votre argent, la donne à des gens qu'il a choisi parce qu'eux sont des meilleurs citoyens que vous. Ils posent les bons choix. Okay? Et là, maintenant, ça va être un peu la même affaire, sauf qu'au lieu de passer par l'entremise du gouvernement, ben, finalement, ça va passer par l'entremise du gouvernement pareil, mais ça va être sûr, on va ponctionner les gens qui font des mauvais choix pour les donner à ceux qui font des bons choix. Qui décide de ce qu'est un bon choix ou un mauvais choix? Ben, c'est Équiterre et Francis Veil, là, essentiellement. J'ai jeté un coup d'œil sur le modèle français, dit Francis Veil, et ma foi, il est typique des programmes de ce pays, fort louable, bien paramétré, mais hyper complexe. Une chance qu'il a annoncé le dernier bout, parce que j'aurais même pas cru qu'il parle de la France. À mon avis, un tel programme doit être simple à administrer et donc éviter d'incorporer une forme de redistribution de revenus en faisant varier les prix selon les revenus, le nombre d'enfants, l'utilisation pour le travail. C'est le rôle de l'impôt sur le revenu de voir à la redistribution. Bon, j'ai analysé 12 modèles électriques, 4 modèles hybrides rechargeables et 9 modèles à essence pour voir comment pourrait s'appliquer un programme de redevance remise au Québec. Mon unique critère, les GES émis sur la durée de vie des véhicules. Il y a juste un problème, c'est que les gens n'utilisent pas le véhicule durant leur durée de vie, hein, mais bon, ça, c'est une autre affaire. Selon les données du site Équiterre, les véhicules à essence représentatifs que j'ai choisis émettent 80 tonnes de GES durant leur vie de 15 ans, fabrication et énergie compris. Environ 20 % des GES sont émis à la fabrication et 80 % durant leur utilisation avec l'essence consommée. Parmi mes choix à essence, le champion est la Ford F-150, donc le véhicule de Émilie Lessard-Terry.
Le véhicule le plus vendu d'ailleurs, hein, en passant, juste rappeler ça pour mettre les choses en perspective. Là. Ouais.
Exactement. Qui pousse 107 tonnes de GES? Bon, là, on a quelques chiffres plus ou moins importants et voici le tableau. Qui, à mon avis, est quand même assez succulent. Donc là, on nous dit, voici les GES émis. Donc, une Toyota Camry, bon, c'est 46 tonnes, ça coûte à peu près 35 000. Une Honda Civic, qui est la voiture de votre humble animateur, qui émet 67 tonnes et coûte à peu près 29 000 $. Le Nissan Rogue, et là, on va jusqu'au Jeep Grand Cherokee, le Explorer et le Ford F-150. Je ne sais pas c'est quand qu'un Ford F-150 a coûté 46 000. Là. Ça faudrait me... D'après moi, ce prix-là, il n'y a même pas le volant dans le truck. Là.
Non, peut-être il y a 20 ans, ça coûtait ce prix-là, mais plus là. Là.
Oui, c'est ça. Mais en tout cas, c'est le prix du catalogue. Et là, on nous dit les véhicules électriques, bon, ça, c'est voici leur fiche technique. Donc, on nous dit la Tesla 3, la Tesla Y, la Hyundai Kona, le Nissan Leaf, bon... entre du 12 et du 54 GES par tonne. J'aimerais ça savoir le Subaru Crosstrek électrique qui émet plus de GES qu'un char à gaz. Est-ce que lui va avoir des redevances? J'aimerais ça le savoir. Mais là, on nous dit, voici à quoi pourrait ressembler un système de redevances remise. Donc, les GES émis en tonnes. Donc, supposons que vous achetez une Tesla Y, parce que tout le monde sait que c'est les pauvres qui achètent des Tesla Y. Mm-hmm. Vous, on vous redonnerait 5 575 $. Et là, on descend un petit chèque de 3 650 $ pour un Ford Lightning. Mais mettons que vous êtes un salaud, comme moi, par exemple, un criminel climatique, et que vous achetez un Honda Civic, vous devriez payer 8 000 $ supplémentaires pour qu'on puisse donner de l'argent à des gens qui s'achètent des Tesla et des Hyundai Kona électriques.
C'est là que j'ai tilté, parce que tu dis tu peux pas charger 8 000 $ à une petite famille là, ou à monsieur, madame, tout le monde qui s'achète une Civic qui est un véhicule, c'est une voiture compacte, là, rien d'extravagant. Tu dis OK, ben, t'as rien qu'à t'acheter un Kona. Bon, c'est pas tout un Kona EV, c'est pas tout à fait la même configuration. Mais bon, mettons qu'on met ça de côté, ou encore un Hyundai Ioniq 5 Long Range en plus, le gros modèle, Il y en a que 5, là, ça start pas mal. En tout cas, c'est, on disait quoi, 28 000, 28 000, 29 000 pour un Civic là, comme prix de base. Il faudrait voir c'était quoi, combien qu'il disait pour le... Je vais remonter un peu pour le Ioniq. Mais enfin, le point que je veux faire, c'est que peut-être que tu sais, effectivement, si tu gardes ton véhicule 15 ans ou quoi que ce soit, attends, on l'a, là, non, on l'a pas là le prix. T'sais, peut-être que si tu gardes ton véhicule longtemps, effectivement, à terme, ça va te revenir moins cher de revenir en EV.
45 000, là.
OK. Bon, quand même une différence significative. Puis l'affaire, c'est faut-il que tu aies l'argent là, là, je veux dire. Puis encore une fois, mais au-delà de ça, là, j'ai voulu faire un argument plus rationnel, économique. Mais moi, au-delà de ça, c'est que je reprends un peu ton propos. J'accepte pas qu'on dise rien qui se promène en civique, qui sont un criminel climatique. Là. On va arrêter sacrément. Là. Ça n'a pas de maudit bon sens.
Ben là, c'est parce que, tu sais, je veux dire, la Honda Civic, c'est. Il n'y a pas plus classe populaire que ça. Là.
Ben là, c'est ça. Là.
Je veux dire, tu sais.
Tant qu'à la classe moyenne. Puis même classe moyenne et même, tu sais, pas juste classe moyenne, des fois même les classes un peu plus basses. Là. C'est vraiment pas correct. Là.
Mais Christy, ça vient de groupes de gauche.
Ah oui.
Le groupe de gauche, soi-disant progressiste. Hey, on va prendre du monde qui achète des chars à 25 000, 28 000. Bon, on va lui sacrer un 8 000 piastres de taxes pour donner ça à des bourgeois qui achètent des Tesla. Ça, est-ce que ça va là, entre les deux oreilles? Mais finalement, c'est un genre de progressiste. Tu sais, c'est l'inverse d'avoir une taxation progressive. T'sais, d'avoir un impôt progressif. T'sais, dans l'impôt progressif, tu gagnes, on va dire, de temps à temps, tu payes 26 % d'impôt. Tu gagnes de temps à temps, tu augmentes à 30 kicks. Après ça, jusqu'à certains plafonds. Donc, ça va par revenu. Et là, c'est l'inverse. C'est de dire, OK, on va prendre le monde pauvre qui achète des Camry puis des Civic, qui sont les voitures en ce moment comme un peu de base, là, parce que t'sais, les petits véhicules que Nissan faisait, ils ont arrêté de les faire, là, les plus petits. Là,
La Micra.
La Micra, ce genre de truc-là. Puis il n'y en a plus
Plus des petits... Hyundai Accent. Puis tu as bien les affaires que tu as plus.
Exact. Ces petites voitures-là n'existent plus. Donc, ben, essentiellement, les voitures d'entrée de gamme, là, mettons quelqu'un qui veut une voiture neuve d'entrée de gamme, là, mettons en bas de 35 000 $, ben, c'est Honda Civic puis Toyota Camry. De base, pas d'équipement, pas de
toit ouvrant. Une Camry, tu peux payer 50 000. Là.
C'est ça. Fait que là, la réalité, c'est elle. Là. C'est que là, vous allez prendre des gens qui travaillent, qui ont des emplois, tu sais, normal, mais je veux dire qu'ils ne sont pas riches, qui vont s'acheter des Civic, puis rendus à la caisse, vont dire, oui, c'est 28 000, monsieur ou madame, mais en passant, vous devez payer 8 000 $ supplémentaires. Of course, ce 8 000 $-là va être plus taxe, on s'en doute. Parce que le gouvernement va prendre sa cote au passage. Et ce 8 000 $-là, il sert à quoi exactement? Ben, il sert, regardez le monsieur et la madame là-bas qui a un manteau de fourrure. Là. Eux sont venus pour acheter une Tesla et c'est à eux qu'on va donner une partie de votre 8 000. On lui donne 5 575. C'est pour vrai, c'est immoral.
Mon c'est odieux,
immoral. Ouais. Puis c'est les mêmes qui nous disent hey, les baisses d'impôts de la CAQ, ça profite juste aux riches. Puis, ben là, excusez-moi, mais votre système, ça va profiter aux riches en sacrament. Là.
C'est parce que le but avoué de ça, c'est que le prix des voitures à essence conventionnelle versus hybride branchable ou 100% électrique, ce soit des prix qui se rapprochent. Que tu dis, bon, tu prends ta Civic à 29 000, rajoute-en 8 000, t'es rendu à 38, après ça. 37, après ça, ajoute-y, prends ton Hyundai Kona EV, enlève-y un 5500, tranquillement, ça commence à se rapprocher, mais d'un, ben là, ça, j'apprendrai rien à personne, ça veut juste souligner comment ces gens-là de la gauche n'ont pas confiance au marché, tu sais, si on revient à ce que je disais un peu plus tôt, quoi, laissons le marché s'ajuster en fonction de l'offre et de la demande, puis il n'y en aura pas de problème. Ça, c'est pas une surprise pour personne de savoir que ces gens-là n'ont pas confiance à ça, mais moi, au-delà de ça, c'est que je veux pas leur donner ce pouvoir-là, je veux pas qu'eux autres décident combien j'ai un char à gaz, ça devrait ressembler plus à quel prix versus un véhicule électrique. Non, je veux pas.
Mais de toute façon, leur système ne marche pas. D'un simple point de vue logique, leur système ne marche pas. Parce que qui va aller l'acheter, la Honda Civic, à ce prix-là, si finalement je peux me faire pour moins cher un véhicule électrique puis recevoir un chèque? Donc, ouais, mais eux autres, ils vont dire, ouais, mais... Frank Simon, c'est ça notre but. Ouais, mais ça revient à dire que votre système il est infinançable. Votre système, non. Dans le fond, de financement, de subvention déguisée, il est basé. Dans le fond, votre système ne peut marcher que s'il y a des gens assez crétins pour même qu'on leur charge 10 000 $ de plus, ils vont prendre ce choix-là pareil. Mm-hmm. Et clairement, on le sait que ça n'arrivera pas. Je veux dire, demain matin, tu dis aux gens, si tu achètes une Civic, c'est 8 000 $ plus taxes de plus. Puis si tu achètes tel autre char, c'est, on te donne un chèque de 5 000. Il n'y a pas personne qui va aller acheter la Civic.
Ben, pour certains produits, ça va arriver, pas encore une Civic, mais pour ton F-150, parce que oui, tu as le F-150 Lightning, on en a déjà parlé.
Là, ça, c'est le truc le plus saucé. Là. Le F-150, qui n'est pas le F-250, qui est ni non plus le Dodge Ram EMI, pas tant de choses, avec le V8 dedans. Tout, là, on parle du F-150 de base.
Tu peux en avoir un avec un Écotec avec un 2,7 litres. Là. Tu sais, je veux dire, bon,
18 050 piastres de taxes.
Oui, et puis ça, c'est parce qu'encore une fois, tu sais, on a parlé précédemment, tu as le Ford F-150 Lightning, mais vous pouvez voir, il y a plusieurs gens qui sont...
Folie,
il ne convient pas à tous les besoins, notamment au Québec, en hiver, puis après ça, aussitôt que tu commences... La puissance, la performance en termes de vitesse, etc., c'est là. Mais capacité de remorquage, aussitôt que tu te mets à tirer, tu vois ton autonomie diminuer. Là, après ça, bon, l'hiver, je viens de le mentionner. Après ça, ton temps de recharge. Tu sais, quand tu es un travailleur sur la route, un travailleur de la construction, parce qu'il y a eu un reportage, là, vous en avez parlé brièvement, là, des gens, les boomers québécois qui sont partis en Floride en Tesla, puis bon, pas de problème, mais tu sais, c'est ça. C'est des gens à la retraite qui voyagent, puis oui, ça peut se faire sans problème et tout. Mais si tu travailles, tu n'as pas le temps d'arrêter, tu sais, de perdre une demi-heure, ou je ne sais pas, même sur une borne de niveau 3, ça ne fonctionne pas. Fait que tu vas avoir encore des gens, tu sais, oui, tu as beaucoup de gens qui ont des pick-up, puis probablement qu'il n'aurait pas besoin d'un pick-up, mais ce n'est pas de mes affaires, ça. Mais mettons qu'on met ça de côté, tu as des gens qui ont un pick-up, qui en ont besoin. J'en vois des gens qui font le choix du pick-up. J'en vois des F-150 Lightning, j'en vois un peu maintenant qu'il y a eu beaucoup de rabais. Mais tu as encore beaucoup de F-150 conventionnels à essence, tu sais, qui est sur les chantiers et tout. Puis, tu sais, moi, je fais confiance au jugement de ces gens-là, mais ces gens-là n'auront pas le choix. Là, après ça, on va se rendre compte, hey, ben, tu sais, je veux dire, rendu, il y a tellement de facteurs qui font que, par exemple, la construction, les maisons coûtent cher, mais ça aussi, ça vient s'ajouter à ça.
Ben
si
oui.
Tu charges une surtaxe, ces véhicules des gens qui travaillent ces chantiers et qui en ont besoin. Puis effectivement, on n'a pas parlé encore des F-250 Lightning, des Super Duty. Puis c'est patent, pas des F-250, pas des Lightning, pardon, je veux dire les F-250, les Super Duty, etc.
Ben oui.
Ça aussi, ça va s'ajouter à un moment donné.
Ah non, c'est fou, là. Et là, ça nous amène à l'intérieur du double discours, parce que dans ces milieux-là, parce que là, on vient d'entendre le propos d'équitaire par la bouche de Francis Veille.
Ouais.
Allons maintenant du côté de Julia Poska.
Ouais.
Donc, qui est Julia Poska? Elle est sociologue et membre de comité de rédaction. Bon, bref, elle est dans un... En fait, je pense qu'elle était pendant un bout à l'IRIS, si je ne me trompe pas.
Un autre économiste, pas économiste, dans le fond.
Oui, c'est ça. Je vais vous dire ça, là, Julia Poska. J'essaie de retrouver son pédigrée. Donc, c'est ça. Elle est sociologue et chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique de l'IRIS, finalement, l'IRIS.
Mm-hmm.
Elle collabore au blog de l'IRIS dans le Journal de Montréal. Et là, elle nous fait l'honneur de ce texte-là dans Le Devoir qui s'appelle « Foncer dans le mur en char électrique ». Donc là, Équitaire, eux, veulent des subventions camouflées, entre guillemets, ou détournées pour acheter des véhicules électriques. Mais Julia Poska de l'IRIS, elle a dit « Char électrique, là, c'est de la merde ». Donc, dans cet article-là, dont je vais vous lire un extrait, elle nous dit « Entre 2000 et 2021, le nombre de véhicules en circulation s'est accru de 50% au Québec. Quant aux camions légers destinés à la promenade, dont font partie les fameux VUS, parce que ça, c'est... VUS, ça, c'est comme être dans la secte de Anton Levy. C'est carrément satanique, avoir un VUS là, dans l'esprit de ces gens-là. Là.
Ouais, puis parenthèse, je veux dire, tout est rendu un VUS à cette heure. Moi, je faisais quand même partie de la team Catou Latuc dans le temps que ça faisait scandale parce qu'en se promenant en Subaru Crosstrek, je suis comme, écoutez, on a déjà vu plus VUS que ça. Là,
non, c'est là. Ça, là. Et donc, elle nous dit, conséquence de cette démesure, donc ça, la démesure, c'est votre bien-être.
Ouais.
En 2020, au Québec, le secteur des transports était responsable de 43% des émissions de gaz à effet de serre, selon le ministère de l'Environnement. Comment renverser cette tendance qui contribue à nous mener tout droit vers un cataclysme écologique susceptible de rendre la vie sur Terre insupportable. Donc, la vie sur Terre, chers auditeurs, est reliée aux véhicules des Québécois.
Tout je sais pas, moi, ceux qui me rendent la vie insupportable, c'est plus, ils exercent leur liberté d'expression, j'ai aucun problème avec ça, mais c'est bien plus eux autres qui veulent m'enfantianiser ma vie que le char que tu chauffes, Frank, ouais, ou ton voisin chauffe.
Mais c'est ça, fait que ma Civic, quand je vais payer 8 000 $ dessus, la Terre va être sauvée, c'est ça, j'ai compris.
Exactement.
Le remède est apparu sous la forme d'une vieille technologie, la batterie. En remplaçant les moteurs à combustion par des batteries rechargeables comme mode de propulsion, nous avons trouvé le moyen de rester assis confortablement au volant de notre aveuglement collectif. La voiture électrique nous évite de devoir sacrifier notre mode de vie pour mieux sauver une poignée de rainettes que l'étalement urbain n'est pas tout à fait parvenu à rayer de la carte.
C'est important, je t'interromps ici, c'est important cela, là, ce passage-là, parce que ça donne raison à Joe Hamel, qui a déjà dit que ces gens-là, ils détestent... Oui, oui, mais tu sais, ils détestent ce que vous êtes, ils méprisent tout ce que vous aimez, puis elle en a parlé du mode de vie. Ils méprisent votre mode de vie. C'est difficile, ce ne sont pas dans notre team, ce monde-là.
Non. Ainsi, le gouvernement du Québec a-t-il pris avec enthousiasme le virage de l'électrification des transports? Ça tombe bien, nous dit-on. Le Québec est le royaume de l'électricité propre. Au mois de novembre, le PDG d'Hydro-Québec, Michael Sebia, affirmait que de nouveaux barrages seraient construits dans les prochaines années afin de fournir l'effort nécessaire à la décarbonation de l'économie. La seule souveraineté que cet électorat revendique, c'est celle qui consiste à s'approprier les ressources à leur portée et à les vendre aux plus offrants. L'économie et la politique des administrations coloniales. Hey, c'est saucé en sacrifice. Ah, là, on est dans le colonialisme énergétique, comment je dirais ça, l'hydroélectricité systémique. Puis c'est dans cette optique que le gouvernement du Québec appuie à la hauteur de 8 millions de dollars la vallée de la transition énergétique afin de positionner clairement le Québec et ses atouts dans un marché en émergence. Le gros soutien gouvernemental ira directement à des entreprises privées. Ford recevra de l'argent de Québec et Ottawa pour son usine à Bécancour. Ce scénario se répète chaque fois que des firmes étrangères nous font l'honneur de venir s'implanter chez nous. Vous comprendez qu'il y a de l'ironie dans le mot « honneur ».
Oui, oui, oui.
Et là, il nous dit que nous sommes on est dans la bétonisation systémique. Tant pis si les nappes phréatiques et les cours d'eau s'en trouvent contaminés ou des populations déplacées. L'important, c'est de faire croître le PIB. Il suffit d'employer des technologies vertes et le tour est joué. Le développement devient durable. On se réconforte en se disant que les véhicules électriques, lorsqu'ils circulent, n'émettent pas de GES. Mais sont-ils vraiment écologiques? Et là, il y a un développement qui suit pour expliquer que, en gros, vu qu'on ne prend pas tête devant le chemin de la décroissance, le chemin qu'on est en train de prendre, c'est celui de la mort.
Oui, puis là, j'essaie juste de vérifier que...
Essentiellement, c'est un peu ça qui est dit.
Puis là, tu sais, elle fait référence notamment, j'imagine, de manière implicite, mais un peu à l'usine de batterie de Ford là, qui s'en vient au Québec, là, qui a été annoncée. Je viens de tomber sur un texte justement du Devoir du mois d'août dernier. Mais elle, en force de quoi, elle présume, Ford va ouvrir son usine à batterie, fait que c'est garanti que la nef phréatique va être polluée. Je suis comme, c'est un peu présomptueux là, de faire une telle affirmation. Voyons, attends un peu, là, on a quand même des normes en place et tout. Puis,
Fin est spectaculaire. L'action des lobbies fossiles et automobiles concourt certainement à la persistance du règne de l'auto solo. Au-delà de ces intérêts purement corporatistes, c'est aussi notre rapport à l'espace qui est vicié. Nous n'habitons pas le territoire, nous le consumons, nous l'occupons en confinant la nature à sa marge. Hey, on est dans le...
C'est de la réingénierie sociale, un terme que j'aime pas, là, mais c'est ça pareil.
Oh, mais on est dans l'ésotérisme aussi. Là, oh, oui. On est dans la gaïfication de la réalité. On est dans le... Tu sais, c'est le retour à la Terre, le mythe du bon sauvage. On est là-dedans. Là. C'est l'humain à l'état de nature était bon, nu et parfait.
Oui.
Il vivait dans l'allégresse et c'est la civilisation... avec sa consommation, son libéralisme, tout ça qui l'a avili. Donc, si nous sommes dégénérés, comme ces gens-là se disent progressistes en passant. L'humanité est dégénérée au point où elle l'est en ce moment, c'est parce qu'on nous a sorti de notre état de nature de bon sauvage. Bon, ça, c'est comme, tu sais, je veux dire, on peut s'amuser dans un café philo à discuter de ce genre de trucs-là. Là. C'est écrit dans le devoir. Tu sais, je veux dire, c'était dans un journal. Ça n'a pas vocation à être une simple réflexion sur un tableau. On prend un coup dans un café et on refait le monde.
C'est ça aussi, ça gosse, c'est que ce soit dans des médias mainstream comme ça, en ce que je crois l'avoir déjà dit, mais tu dis, c'est bol. Par nos taxes et impôts, on subventionne ces médias-là pour nous faire dire qu'on est des merdes. Je suis un peu tanné, pour vrai.
Ouais, c'est ça. Moi, c'est de la merde.
Mon mode de vie, c'est de la merde. Mes choix de consommation sont stupides. C'est comme. Puis moi, je paye. Je suis pas abonné du devoir, vous aurez compris, mais c'est taxes, subventions, etc. Le salaire des journalistes qui est subventionné aussi pour partie, tout ça. Tu dis, je paye pour me faire dire ça à journée longue. Ça commence à être fatigant. Après ça, on va se demander pour qu'il y ait des incivilités, pour faire le point avec d'autres sujets qu'on a.
Oui, oui, ça commence à être très, très insupportable, pour être franc. On va passer à la partie Patreon. Tu avais envie de parler d'une histoire de santé. Je te laisse le présenter brièvement, puis on traverse sur Patreon les gens qui veulent nous suivre.
Oui, j'ai vu ça passer par pur hasard hier. Là je vois que c'était dans... c'est une sorte de lettre ouverte sans médecin de famille. Ma fille a été sauvée par sa chiro. C'est dans le Journal de Montréal, dans TVA plutôt, le 25 mars, donc hier. Et là, c'est ça, je crois. Là, je vois que ça a été placé dans la section santé, mais il me semble que quand je l'ai vu passer hier, je croyais que c'était dans la section Faites la différence, là, où est-ce que finalement, c'est ça, on donne un peu la parole à des gens de l'auditoire, chez Québécois, chez TVA, etc. Puis bon. Là-dedans, le père de famille raconte son histoire d'une de ses enfants, là, qui dit qu'elle avait des problèmes, là, qu'elle a dû, qu'il y a 6 mois, elle a subi une chirurgie majeure au dos. Puis il y a comme une sortie là-dedans, mais pas une sortie, mais on sent qu'il y a quand même une critique contre le privé en santé là-dedans et tout, même s'il dit, tu sais, je blâme pas les médecins et tout et tout. Il y a quand même un genre de ligne éditoriale, puis bon, c'est le choix du père de parler de ce qu'il veut, puis de TVA après de le publier, mais bon, ça a été dans la section, on voit que tu sais, tu as le petit logo jaune, le populaire sur le site de TVA Nouvelles. Mmh. J'ai essayé de voir un peu c'était quoi les réactions suite à ce texte-là, puis il y a quelque chose qui semble avoir, que moi, qui j'ai accroché beaucoup dessus, mais qui a complètement passé à côté pour beaucoup de gens. Fait que je me suis dit, bon, on va essayer d'avoir une valeur ajoutée. Puis c'est là de ça que j'aimerais vous parler sur Patreon aujourd'hui. Donc, voilà.
Parfait. Bon, joignez-vous à nous, tout le monde. On en parle de ce pas.
Oui.